La retraite est-elle un long fleuve trop tranquille? C'est la question qui est posée dans un atelier de théâtre forum au Centre social des Isards, mais aussi à la MJC Roguet, proposée par l'association Arc-en-Ciel, et à de nouvelles retraités, et qui nous font le plaisir d'être dans le studio avec nous aujourd'hui pour venir justement nous raconter un petit peu en quoi consiste déjà ce théâtre forum, cet atelier, cette proposition-là, voilà. Et puis je me suis dit que c'était aussi peut-être l'occasion de parler de sujets dont moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas trop l'habitude de parler, et pour cause, parce que je pense que je suis assez loin de la retraite, même si je suis toujours un peu loin du travail aussi. Mais voilà, du coup, d'en parler à la radio et puis de discuter des thèmes qui se posent, on va dire, au tournant de la soixantaine, en quelque sorte, que ce soit dans le rapport au travail, dans le rapport à la retraite, mais aussi comment dire, à la transformation du regard de la société. Et peut-être, vu que là on est en présence de femmes aussi, moi je me pose la question de savoir aussi, en tant que femme, comment est-ce que le regard de la société change, on va dire, de manière large. Alors, peut-être pour commencer par présenter un peu de quoi on parle, est-ce que tu pourrais commencer par présenter un petit peu Arc-en-Ciel, en quoi consiste justement cet outil du théâtre forum, et pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de le proposer à des nouvelles retraités?
Oui, du coup, Arc-en-Ciel Théâtre, c'est une association d'éducation populaire. Donc, c'est une compagnie de théâtre institutionnel à Toulouse, qui existe depuis. Le réseau Arc-en-Ciel Théâtre existe depuis 30 ans. L'idée, c'est de se dire, si on veut se considérer, ou si on veut créer des espaces de démocratie, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on peut assumer qu'on n'est pas d'accord et que ça ne nous empêche pas de faire société, qu'on est aussi en égalité d'intelligence, que les expériences aussi qu'on a vécues n'ont pas plus d'importance les unes que les autres, enfin les expériences de chacun, sont égales, comment on fait pour faire ensemble, et puis aussi comment on fait pour changer les choses qui ne nous conviennent pas. Comment on fait pour pouvoir attraper les sujets qui nous concernent et qu'on a envie de changer et pour les modifier. Et du coup, on pourrait faire ça en débattant, en discutant, par la parole. Nous, on postule que en passant par le, en se montrant ces situations et en essayant directement de les changer, en prenant la place de quelqu'un dans une scène pour essayer de faire autrement, eh ben on peut essayer de démêler une pelote de laine où on voit des problèmes qui se posent. Des fois, en tirant le fil de la pelote, eh ben on voit qu'il y a des nœuds et que ça fait venir d'autres questions. Du coup, on met une recherche collectivement qui pose une question, comment faire pour changer ce qui nous convient pas. Voilà, et donc on fait des ateliers avec tout type de public. Donc nous on essaie de voir avec des groupes quelles sont les questions qui les préoccupent. Et il y a quelque temps avec ma collègue Camille, on a vu un appel à projet de la CARSAT à Toulouse, et on s'est dit que le moment du passage à la retraite, pour nous, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant, qui pouvait poser des questions, justement, parce que voilà, on est entouré de gens qui ont pris la retraite récemment, et puis on voit que par exemple on a un peu l'impression que on part d'un collectif constitué de qui est celui qui fait un collectif de socialisation qui est celui du travail, qui peut avoir des formes diverses, et puis on le quitte, ce collectif, et puis après les autres collectifs qui sont proposés à des personnes à la retraite, c'est souvent destiné à des personnes qui sont plus âgées, qui ont peut-être vers 75 ans, quelque chose comme ça, dans des clubs de retraités. On n'a pas des gens qui viennent de sortir de la retraite. Et donc, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est intéressant?
De rentrer dans la retraite.
J'ai dit que...
Oui. De sortir de la retraite.
De sortir du... Oui, bon, voilà, ouais. Oui, oui. Et du coup, on est parti de ça. On est parti de cette question-là. On a été voir différentes associations sur Toulouse pour voir, pour poser cette question, pour dire, ben, est-ce que ça vous parle? Et il se trouve que oui, ça parle et que effectivement, il y a des gens qui ont répondu et qui viennent débattre avec nous, qui viennent se poser des questions et essayer eux-mêmes. L'idée, en fait, hein, c'est de, on se montre des situations qui conviennent pas, puis on essaie de les changer. Donc on change les scènes pour mieux les comprendre, on comprend les scènes, ça nous permet de mieux les changer, et puis bon, bien sûr on se dit, ben, peut-être qu'on peut faire pareil en dehors des ateliers, changer le monde pour mieux le comprendre, mieux le comprendre pour mieux le changer. Voilà, c'est un peu la dynamique qu'on essaie de mettre en place.
Est-ce que autour de la table, vous avez commencé par vous présenter, mais peut-être nous raconter un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à cette expérience-là. Est-ce que peut-être le théâtre, c'est quelque chose qui faisait déjà partie un petit peu de vos passe-temps
Alors, personnellement, je ne faisais pas de théâtre, mais j'étais avec des enfants avec qui on faisait du théâtre. Et le questionnement, il est surtout, effectivement, on sort d'une vie de travail intense, qui prend énormément de temps, et on s'en rend compte une fois qu'on est à la retraite, parce qu'on est dans un rythme complètement différent, où nous avons le temps de penser davantage, et peut-être des fois un peu trop. Du coup, cette proposition de forum était un petit peu une île importante dans laquelle, personnellement, j'ai eu envie de jouer quelque chose, parce que je me suis dit, je vais rencontrer des gens qui sont dans la même situation que moi, mais que font-ils de leur journée, de leurs heures, vu qu'avant j'étais noyée dans le travail, maintenant, voilà. Et du coup, les échanges sont effectivement riches, puisqu'on arrive à jouer des rôles, si on peut dire, qu'on a rejoué, à y penser et à trouver des côtés très... des solutions, on va dire. Voilà. Je suis un peu dans l'abstrait, mais peut-être qu'on en reparlera après, plus précisément.
Donc moi, le théâtre, j'étais plutôt consommatrice de théâtre. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est en fait... Donc le départ à la retraite a été assez précipité suite à négociations. Et donc là, j'ai vu ce théâtre forum comme une manière de me poser et de me dire, ben voilà, il y a des choses dans la vie que tu n'as jamais faites, maintenant tu as du temps libre, vas-y, lance-toi. Et donc là, c'est la troisième session, et il s'avère que, comme disait Sabine... on a une certaine identité qu'on partage, puisqu'à la base, c'était être jeune retraité. Et le fait de poser des mots sur une situation qui m'était inconnue et totalement abstraite il y a quelques mois, me permet de me rendre compte que il y a autre chose que le travail dans la vie, et que cette possibilité de rencontre et de discussion sur des situations qui peuvent être un petit peu problématiques nous permet de prendre du recul en jouant. Et je trouve que c'est une approche ludique qui, moi, personnellement, me convient bien.
Alors, justement, vous m'avez... Avant de préparer l'émission, vous m'avez parlé un petit peu de différents thèmes que vous pouviez aborder, à savoir que, déjà, il faut préciser que l'atelier est encore rejoignable, parce qu'en fait, là, on est un petit peu aux prémices de cet atelier, et que l'idée, là, aussi, c'est d'en parler pour que les gens qui nous écoutent se disent, tiens, possiblement, ça pourrait m'intéresser.
Oui, tout à fait. En fait, il y a une série de 8 ateliers qui va, du coup, durer jusqu'en juin. On en a fait 3. C'est tout à fait possible de rejoindre aujourd'hui, hein, le prochain là aux Isards, c'est la semaine prochaine, c'est le 16 à 10h au centre social, et donc c'est destiné à toutes les personnes qui est retraitée depuis moins de 3 ans, voilà.
Et alors, peut-être avant de rentrer dans le... Parce qu'en fait, de la discussion qu'on a eue en avant, avant de commencer, on parlait pas mal de la retraite comme d'une transition. Parce qu'en fait, vous, en gros, vous venez d'y rentrer. Donc du coup, le regard que vous avez sur la retraite, c'est pas, comme on disait, une retraite installée. Voilà, c'est vraiment, ouais, le passage d'un état à un autre. Mais peut-être avant la retraite, il y a aussi une question qui se pose pour les personnes qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui sont par exemple chômeurs à la cinquantaine ou la cinquantaine bien passée, qui reçoivent cette injonction de travailler. Ça, c'est notamment quelque chose qui est apparu dans vos discussions. Et justement, est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus, sur en fait comment résister à cette injonction de Pôle emploi au travail, en fait, qui se pose en fait à tous les moments de la vie, puisque c'est un contrôle social qui est lourd et continu, voilà, mais qui se pose peut-être différemment quand on a la cinquantaine.
Oui, c'est là lors du dernier atelier. En fait, à chaque atelier, nous, ce qu'on propose, c'est que on fait des groupes, par exemple 2-3 groupes qui vont fabriquer ce qu'on appelle une maquette, c'est-à-dire ils vont se montrer une situation qui leur convient pas, qui voudrait changer, et ensuite on se les montre et on choisit une des maquettes pour faire forum dessus, donc pour mener la recherche collectivement. Et là, il y a une maquette qui a été montrée, donc on n'a pas fait forum dessus pour l'instant. Mais on pourra l'aborder plus sur une autre séance, où une personne qui travaillait précédemment chez Pôle emploi se retrouvait avec des injonctions de ses supérieurs à dire il faut bien proposer tel stage, telle formation, tel travail, il faut bien vérifier que la personne est bien dans une démarche de recherche d'emploi. Et donc, elle-même était allée prendre la retraite bientôt, et elle se retrouvait face à des personnes qui elle aussi approchait de l'âge où on prend normalement la retraite, mais qui n'avait pas de travail, et qui se retrouvait face à elle en sachant très bien qu'il y a un chômage structurel qui concerne tout le monde, mais particulièrement les personnes, par exemple, on dit à partir de 50 ans, c'est plus difficile de trouver un travail, et qui se trouvait par injonction à gérer ce truc, à se trouver face à des personnes, à normalement devoir leur proposer des formations, des trucs, et la personne en face qui, possiblement, peut lui dire à quoi ça rime, en fait? À quoi ça rime? On sait très bien que je peux être formé, je peux faire des stages, je peux faire des ateliers de CV et des ateliers de je sais pas quoi, de maquillage, de confiance en soi. En réalité, c'est pas là que se joue la question, quoi. Si les personnes de moins de 50 ans ont moins d'emplois, c'est pas là que ça se joue. C'est pas avec un atelier de confiance en soi que ça va se régler. Donc voilà, les questions qui étaient sous-tendues par
justement, est-ce que vous avez trouvé des pistes de réponse de comment justement se défendre face à ça?
Alors, on n'a pas mené de recherche, on n'a pas fait forum sur cette scène en particulier. Simplement, on se l'est montré, puis on s'est demandé un petit peu qu'est-ce que ça montrait. Donc, on n'a pas trouvé encore, on n'a pas recherché des éléments de compréhension et de réponse. Mais pourquoi pas la prochaine fois si ça nous intéresse. Hein.
Oui, Pascal a raison en ce sens qu'on n'a pas travaillé sur cette maquette. Mais moi qui viens d'un groupe privé où quelque part j'ai eu entre guillemets de la chance de pouvoir travailler jusqu'à ce qu'on négocie mon départ à la retraite, cette injonction de travailler, je l'ai quand même perçue puisque dans le monde de l'entreprise, à partir de 45 ans, on est considéré comme senior. Et donc, il a fallu quand même que...
Je me permets, oui. Ça veut dire quoi être considéré comme senior? C'est quelque chose de concret ou c'est...
Dans le groupe auquel j'étais, je pense que c'est un peu le standard dans le privé, c'est qu'en fait, normalement, vous êtes amené à avoir un entretien avec votre RH qui vous dit, voilà, vous êtes à un moment de votre carrière où, vous pouvez faire un bilan de compétences, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Et il s'avère que moi, j'avais un poste, je vais dire, entre guillemets, de cadre moyen. Je ne pouvais décemment pas aller trop loin dans des responsabilités. Sachant qu'en plus, 45 ans, je l'avais un peu oublié, et mon RH aussi l'avait oublié. Donc ça veut dire que le monde du travail, et j'y ai participé, j'étais en plus syndiquée dans mon entreprise. Enfin, on accepte de jouer le jeu quelque part, puisqu'on accepte de travailler. Ce cadre où, en fait, on doit... Moi, je travaillais à 63 ans avec un rythme de travail qui était identique à celui que j'avais quand j'avais 50 ans. Et donc, il n'y a pas, je trouve, d'adaptation, du moins ce que moi j'ai vécu ou mes collègues ou ce que je voyais dans ma société. Soit on était cadre dirigeant, donc là, les questions ne se posaient pas et on pouvait travailler jusqu'à 70 ans. Autrement, après, pour la majorité, et je parle même pas forcément de l'employé, mais enfin, bon, cadre moyen ou employé, c'était pareil, il n'y a pas eu d'adaptation du travail, j'ai trouvé, à l'âge, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, moi, 63 ans, je travaillais avec des gens de 30 ans, on avait un gap générationnel, on n'abordait pas du tout les choses de la même manière. Et en fait, moi, on venait me voir parce que je connaissais l'entreprise et le mode de fonctionnement, blablabla. Mais c'était à moi de m'adapter. Et on n'a pas cherché, à des gens de la soixantaine, de les faire aller régulièrement vers un mode de travail qui correspondait à leur capacité peut-être physique, intellectuelle, résistance et goût aussi.
Et c'est pas quelque chose qui se discute non plus, c'est...
Il s'avère qu'aussi j'ai traversé cette période-là dans la période de confinement. Donc la discussion était surtout portée, je reviens à mon rôle syndical, plutôt sur les conditions sanitaires dans l'entreprise et comment revenir travailler dans l'entreprise. Et là, c'était des discussions à n'en plus finir pour que le salarié qui souhaitait revenir travailler le fasse dans des conditions sanitaires qu'il mettait en sécurité, plutôt que, on a des personnes qui sont un peu vieillissantes, entre guillemets, comment on va adapter leur travail.
Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis fonctionnaire, enseignante, et il n'y a pas non plus d'adaptabilité. Je suis partie à 65 ans et je travaillais avec 25 élèves dans le confinement et au même rythme que mes collègues qui ont 40 ou 20 ans. Voilà.
Alors justement, j'ai l'impression que là, vous avez des profils, tu parles de carrière, fonctionnaire. On est sur des revenus qui sont quand même assez stables et j'ai l'impression de ne pas me tromper... relativement confortable, parce qu'en fait, il y a tout le problème des petites retraites, et notamment pour les personnes qui ont eu des grosses périodes de chômage, RSA, qui n'ont pas trop cotisé. Justement, je me demande, je pense que c'est un gros problème, les petites retraites, dont on parle vraiment très peu. J'ai aucune idée là-dessus, j'ai pas trop préparé mon sujet, mais est-ce que c'est des sujets dont, justement, vous avez discuté pendant vos ateliers, c'est-à-dire les petites retraites, en fait la précarité économique à la soixantaine, quoi, notamment.
On a parlé de précarité, ouais. Alors on n'a jamais demandé. Les gens n'ont pas forcément dit quel était le montant de leur retraite, mais par exemple, je me souviens d'une scène où une personne avait reçu un courrier. Lui disant simplement qu'elle allait toucher un tiers moins, je crois, que l'allocation qu'elle pensait recevoir. Et du coup, c'était un bouleversement important qu'on peut imaginer. Et puis il y avait une espèce de truc où elle s'était auto-culpabilisée en se disant peut-être je peux faire des économies, peut-être je peux faire attention à ce que j'achète à manger, et puis est-ce que j'ai besoin de temps sortir, etc. Et avant d'assumer la légitimité de la pension de retraite qu'elle devait toucher, elle a dû arriver à se dire c'est légitime que je touche une pension même si je vais pas au boulot. Et il a fallu déconstruire ce truc-là pour dire. Et puis aussi, il y avait la question de comment faire pour se sentir en collectif par rapport à cette question-là. Donc, comment faire pour lutter, pour être collectivement, pour lutter pour nos droits, ça se pose dans le cadre du travail, mais dans un syndicat, peut-être on peut trouver du soutien. Il y a aussi des structures syndicales qui soutiennent, enfin, qui organisent les retraités, mais ça vient pas peut-être aussi instinctivement de se dire je vais m'adresser au syndicat quand on est retraité plutôt que quand on est dans une boîte, quand on peut s'adresser à un représentant, quand on peut avoir un panneau d'affichage syndical, alors que voilà, quand on est de la même manière que quand on est en précarité. Au chômage, par exemple, on n'a pas cette construction collective qui fait qu'on peut aller plus facilement vers une organisation, quoi.
Ouais, et puis ça me fait penser aussi à la manière dont, dans cette société organisée autour de l'injonction du travail, de la centralité du travail dans la socialisation, comme tu le disais, tous les droits sociaux sont, enfin tout accès aux droits sociaux sont légitimés. C'est la base de la culpabilisation des chômeurs. Et j'imagine là de ce que vous me dites qu'il y a peut-être les mêmes mécaniques qui se mettent en route pour la retraite. Je vous propose de faire une petite pause musicale et de nous retrouver juste après. On va écouter Anne Sylvestre.
On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment enfonce? Clémence va bien. je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, se reposeraient enfin.
De retour dans le magazine de Canal Sud 92.2 et on est toujours avec nos invités du Théâtre Forum sur justement les jeunes retraités et la retraite, et on va poursuivre notre discussion et peut-être parler justement de la manière dont vous avez vécu cette transition du passage du travail à la retraite. Et je me demandais, bon, on a commencé à en parler, mais quelles étaient les questions que ça a soulevé chez vous, et peut-être de savoir qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport à vos proches, à vos amis ou à votre famille, qu'est-ce que ça a pu être les conséquences, c'est-à-dire cette libération de ce temps-là, voilà.
Ah ben, la libération du temps, ça, c'est une question fondamentale que me pose comme question mon entourage. C'est quand on m'appelle, je te dérange, mais de toute façon, tu as la retraite, donc en clair, je te dérange pas. Et qu'est-ce que tu fais ? Et ce à quoi je réponds, si c'est un ami, enfin, si c'est quelqu'un de très proche, ben écoute, j'ai plus de chef. Donc, ce que je fais me regarde que moi. Si j'ai envie cet après-midi de dormir, je dors. voilà, donc, mais, bon, c'est un peu excessif, mais en fait, je trouve que... et à mes anciens collègues qui m'appellent encore pour savoir comment ça se passe, tout ça et tout, c'est un peu un problème. C'est qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ce temps que tu as pour toi, qu'est-ce que tu fais ? Donc moi, ça me renvoie à la question, ben, qu'est-ce que j'en fais moi ? Bon, je ne vais pas t'expliquer, mais j'ai eu 6 mois assez compliqués pour des raisons personnelles de départ de ma vie et là où je vivais, du travail, et me retrouver sur Toulouse. Et j'avoue que ce temps-là, pendant 6 mois, je ne savais pas trop dans quel système j'étais. Et là, ça va faire un an au 1er juillet, donc c'est quasiment demain, que je vais être à la retraite. Et je commence juste à me dire, voilà Françoise, ben, tu as travaillé, tu as une retraite, elle est scalée. Tu as la chance à ce jour d'être en bonne santé. Ben, quelque part, dans tous les moments, petits moments de la journée, tu fais... Ben, ce que tu as envie de faire, bon, proportionnellement garder, qu'il y a des choses où on est obligé de faire dans la vie de tous les jours. Et je trouve que cette liberté d'action qu'on a est relativement peut-être jouissif, mais il faut prendre le temps, parce que cette liberté que j'ai, qu'est-ce que j'en fais ? Et je vais peut-être la donner aussi à d'autres personnes.
Oui, je suis un peu de son avis. J'avais l'impression de passer ma vie assise, alors que j'étais tout le temps debout. Je disais, en plaisantant, je joue à la chaise musicale. Je passe du fauteuil, de l'ordinateur, à un bouquin, à un film, à lire, à dessiner. Bon, bref, on passe beaucoup de temps, finalement, complètement différent de lorsqu'on travaille. Du coup, Françoise l'a bien dit, il nous faut bien... 6 mois, voire un an, pour trouver qui nous sommes, ce que nous avons envie de faire vraiment, et pas tout changer pour tout changer. Et je ne pense pas que ça se prépare vraiment, ça se vit. Et le Forum Théâtre était vraiment une occasion de dire, tiens, je vais rencontrer des gens comme moi. pour voir les idées qu'ils vont me donner. Et ça m'a déjà apporté des choses dans mon être à moi. Et j'espère continuer. Voilà.
Mais moi, ce que ça, pardon, désolé, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est. J'ai l'impression que ce que vous décrivez, c'est. On va dire le passage, une prise de recul par rapport à la centralité du travail. En fait, du coup, pourquoi. Comment dire pour, est-ce, du coup, c'est dommage d'attendre la retraite pour remettre en question le travail. Enfin, je veux dire, après, on peut avoir différents points de vue politiques aussi sur la place du travail. On n'a peut-être pas les mêmes, mais c'est vrai que là, ce que j'entends, c'est quand même une limite. Enfin, de se dire qu'en fait, il faut attendre d'être à la retraite pour se retrouver soi, sachant que la vie peut être plus courte aussi que ce qu'on croit et qu'en fait, on... il peut y avoir des boulots sympas, mais en fait, pour la majorité, se demander vraiment... Enfin, on travaille quand même globalement pour survivre, enfin, la majorité des gens, en fait, puisque pour s'épanouir, quoi, c'est l'exploitation. Et je me dis, tiens, bon, ben, c'est intéressant d'avoir ce retour-là sur l'expérience à partir de la retraite, mais peut-être que c'est chouette de la... Ça peut être chouette d'avoir ce regard-là avant aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque.
Manque de temps.
Ah bah ça, c'est clair. mais je ne dis pas que j'étais malheureuse pendant mes plus de 40 ans, je ne sais pas, de travail, mais c'est vrai que j'ai eu peu de moments où j'ai pu prendre vraiment du recul. Je ne dis pas que je n'ai pas fait des choses qui m'ont intéressée, même à côté de mon travail, mais il y a eu un certain formatage, peut-être éducatif, qui a fait que j'étais lancée dans quelque chose et je l'ai continué. Mais on peut passer aussi ses journées à s'interroger. Vous voyez, mais il faut aussi avancer.
Ou à faire, ou à faire d'autres choses qui ne sont pas dans le travail.
Mais globalement, on est dans un système, quoi.
On va trop vite, en général, en fait. C'est ce dont je me suis le plus rendu compte. C'est le fait que je me demande même comment j'ai pu aller aussi vite quand je vois tous ces gens passer, tous ces travailleurs passer. Puisque maintenant, je me remets au piano, je me remets au dessin, je me remets à l'écriture, à la lecture, n'en parlons pas. Et donc, je prends beaucoup de temps et je vois les autres qui passent. C'est un peu affolant.
Si je peux, mais par contre, cette expérience que j'ai eue et que je ne regrette pas, j'essaie de l'utiliser pour mon entourage. Par exemple, ma filleule qui va passer en seconde, qui est en recherche de qu'est-ce qu'elle voudrait faire plus tard. J'ai un discours avec elle où j'essaie de lui apporter mon expérience qu'il faut arriver à se faire plaisir. Donc, je me dis que ce que j'ai vécu n'est pas complètement anéanti. Vous voyez, j'ai toujours eu quand même cette notion de ce que je fais. Bon, je le fais voilà, parce que je suis dans un système, mais que quand même, il me convient ce système. Donc, mais qu'à côté, j'ai la chance de pouvoir m'intéresser à autre chose. Mais j'essaie aussi d'expliquer à des jeunes, peut-être, que je peux rencontrer, que faut quand même, excusez-moi, mais bouffer dans la vie. Donc, faut arriver à trouver quelque chose qui permet d'avancer, d'exister, donc de manger, de survivre ou d'essayer de vivre. Mais qui a des espaces où on peut aussi se faire plaisir.
Moi, ce que j'en tire aussi de nos ateliers, c'est que, en vrai, les personnes qui participent n'ont pas arrêté de travailler, parce que c'est un travail intense d'apprendre à être libre, et que, bon, on le mène à la retraite, j'imagine qu'on le mène aussi... À plein d'autres moments, et que dans ce moment socialement on considère que ça y est, les gens ont acquis de la liberté, c'est pas évident de la préserver aussi, parce que il y a des propositions qui arrivent rapidement. Alors au-delà des personnes qui vous proposent de faire des ateliers de théâtre forum, il y a aussi beaucoup de gens qui, enfin je sais pas, par exemple on a eu plusieurs scènes où ben, les parents, enfin les enfants proposent, disent, ah ben puisque tu es à la retraite, tu vas garder les petits enfants. Et donc des fois c'est pas ou tu vas me filer un coup de main pour ça ou un chien ou truc, et du coup ça mène une espèce d'évidence de disponibilité qui est pas toujours facile à gérer, et donc comme si la liberté acquise était rongée par ailleurs, pas à mauvaise intention, mais des fois aussi guidée par ça peut être tu vas garder mes enfants pour que je puisse moi aller vous turber. Donc des fois, ben, cette pression de l'injonction au travail peut rattraper, rattraper.
Les retraités, c'est les nouvelles femmes, quoi. Celles qui avant ne travaillaient pas pour faire le travail reproductif domestique, ben maintenant c'est les retraités qui joue ce rôle d'appui du salariat.
Ce que oui, et puis de la même manière, on n'appelle pas ça du travail. On dit les retraités travaillent plus. Moi, beaucoup de retraités que je croise ont un agenda hyper rempli. Ils font que des choses utiles. Et des fois, beaucoup plus utiles que. Enfin, ils trouvent les choses plus utiles que ce qu'ils faisaient quand ils étaient au boulot. Parce qu'ils les choisissent et parce qu'ils les font en cohérence avec ce qu'il y a autour d'eux. Moi, j'ai cette impression-là.
Enfin, si je peux me permettre, vas-y. Oui et non. Parce que en fait, cette partie liberté, on l'a joué la session précédente. C'est qu'en fait, comme on a du temps libre pour l'entourage, ben on est disponible. Et donc en fait, on va nous imposer. Donc ça nous fait plaisir parce que c'est très difficile parce que bon, c'est les petits enfants, c'est les nièces, les neveux, ben du style. Ben, écoute, de toute façon, t'as la retraite, donc t'as du temps. Et donc, tu vas nous garder nos enfants. Et c'est vrai que c'est un peu culpabilisant si on va dire ben non, j'ai pas le temps parce que je fais du théâtre, parce que je vais à la chorale, parce que je m'occupe des immigrés. Et on va te dire ben enfin, Françoise, tu peux pas t'occuper de ta nièce. Et c'est vrai que. si on a toujours été dans un système, bon ben voilà, je bosse et je continue, et moi je dis maintenant, ben non, ben écoute, je m'occuperai de ma petite fille, oui, mais on va y réfléchir. Et c'est ce côté un peu sociétal où en fait, alors je sais pas, c'est un peu le droit à la paresse, toute proportion gardée, moi je me dis, ben j'y ai droit. J'ai droit, malgré les injonctions de mon entourage, pour dire, ben voilà, t'es à la retraite, donc t'as du temps libre, donc tu vas t'occuper aussi de choses qui sont pas forcément très sympathiques, parce que moi, j'ai pas le temps. Voilà.
Et là, je vois un petit peu, on entrevoit dans quelle mesure la retraite, elle peut reconfigurer un petit peu le rapport... assez proche, et notamment dans le cadre familial. Après, moi, je me pose pas mal la question de se demander comment on vieillit, en l'occurrence célibataire et sans enfant aussi. Je sais pas si vous avez des expériences autour de vous qui posent cette question-là, notamment en tant que femme, de se demander comment on vieillit sans l'anticiper dans le cadre familial. Vous avez 2 heures. Bon, après, non, je ne sais pas s'il y a...
Je ne veux pas monopoliser la parole, mais il s'avère que moi, je suis une femme célibataire sans enfant. Et donc, a fortiori, comme je l'ai un petit peu expliqué, le travail a été relativement important dans ma vie. Et là, j'ai plus rien, entre guillemets. Si ce n'est un réseau quand même amical assez solide. Et donc, si vous voulez, c'est pas maintenant ce qui peut me faire peur, mais ce que je souhaite préparer, c'est pas maintenant à 64 ans, c'est... Alors peut-être demain je tomberai, j'aurai un AVC, mais plus tard, une autre, dans 10-15 ans, comment vraiment je vais vieillir seule. C'est plutôt ça qui, pour l'heure, m'effraie, en étant honnête.
Mais la question ne se pose pas actuellement.
Ben non, enfin, sauf si je tombe gravement malade. Voilà. Et donc, bon, je vivais en région parisienne, près de Saint-Ouen, où il y a eu la maison des Babouchkas qui a été créée.
Est-ce que tu peux la présenter un petit peu? Parce que je ne saurais pas le faire et je pense que c'est important d'en parler.
Alors bon, j'espère qu'il n'y a pas des... Enfin, la créatrice est décédée, mais enfin bon, j'espère que ces femmes-là ne vont pas trop écouter, parce que je vais dire ce que j'en ai retenu de leur expérience. C'est qu'en fait, c'était des femmes bon, ben voilà, qui étaient libres dans la globalité de la liberté qu'un individu peut avoir. Et donc, en fait, pour ne pas vivre seule, elles ont créé un mode de vie collectif, ensemble, pour vieillir et finir de vieillir ensemble.
Entre femmes.
Entre femmes. Mais en ayant aussi la possibilité de recevoir des enfants, enfin, voilà. Et donc, en fait, elles ont créé un habitat. Donc, après négociation avec la ville, etc., qui a pris beaucoup de temps, elles ont construit un habitat et un mode de vie en collectivité où, en fait, elles pouvaient continuer à être ensemble. Donc, elles étaient très actives dans l'associatif, très divers. Et ça leur permet, je pense que ça continue, même si sa présidente est décédée, où en fait, ça, des femmes continuent de venir et de vivre dans ce milieu collectif et associatif, en fait. Et donc, je pense à ça parce que je me dis, moi, j'ai des copines, je suis en train de penser... Bon, pas de copier, mais leur proposer, qu'est-ce que tu feras quand tu auras 80 ans.
Ok, je propose de faire une petite pause musicale et de se retrouver juste après. Non, je voulais écouter Brigitte. C'est parti.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope, manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, paroles, cris, fornication. Interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. voici ce qui m'attend demain. Si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans vous voir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Brigitte, Canal Sud 92.2, c'était Brigitte Fontaine, comme vous le savez. De retour dans le magazine, on est toujours ensemble jusqu'à 13h30 avant d'accueillir les chanteuses du groupe Peldrut. Peut-être qu'on peut poursuivre ce magazine en racontant un petit peu comment se déroule une séance de théâtre forum, comment est-ce que vous construisez les thèmes, comment est-ce que, on va dire, qu'est-ce que vous mettez en place pour que chaque membre, chaque personne puisse voilà, s'exprimer, participer à cette expérience. Comment est-ce que vous procédez exactement?
Oui, ça se passe, on a deux endroits, c'est au Centre social des Îles des Arts, à l'MJC Roguet, sur ces ateliers. C'est des ateliers de 2 heures, donc on commence à 10 heures. J'ai l'habitude de dire qu'on commence par faire des jeux, et puis après on joue, voilà. Donc c'est un peu la structuration de nos ateliers. Donc pourquoi des jeux? Parce que pour jouer simplement, sans objectif particulier, mais aussi parce que ça permet de se rencontrer, ça permet de prendre contact avec notre corps, se mettre ensemble, se rencontrer. Et puis ensuite, on prend un temps où on fabrique ce qu'on appelle les maquettes. Faire une maquette, c'est... on se met en groupe, souvent en groupe de 3, et là on va prendre un moment pour parler de choisir une situation, en fait une situation réaliste, donc sur quelque chose qui nous est arrivé, sur quelque chose dont on a été témoin, sur quelque chose on sait très bien que ça peut arriver sans nous pardonner, et donc une situation dans laquelle on essaie de faire quelque chose, on n'y arrive pas. Une situation qui peut être agaçante, qui peut être énervante, qui peut être répétitive, qui peut être épuisante, des situations dans lesquelles on renonce. On choisit une situation qui est soumise ensuite à la recherche collective, et c'est-à-dire qu'on la joue, on se la montre. C'est simplement, c'est ce que permet l'outil théâtral, de se montrer cette situation, et on se montre jusqu'à où ça peut aller, quand on n'arrive pas à changer, que ça se passe mal. Et ensuite, on fait forum sur une maquette qu'on a choisie, qui montre un problème, comment faire pour changer telle situation qui ne nous convient pas. Et à partir du moment de la maquette de base qui se finit mal, qui se finit de la manière qu'on veut faire changer, quand il y a quelqu'un qui veut faire changer la situation, il peut venir sur l'espace de jeu pour remplacer une personne pour essayer de faire autrement. Et là, on voit comment ça fait évoluer la situation. Quand on change, quand on fait une nouvelle proposition, quelles sont les différentes réactions que ça peut créer. Et donc, petit à petit, comme ça, on identifie différentes manières de faire et on voit qu'est-ce que ça peut créer, qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre de la situation et qu'est-ce que ça peut nous faire imaginer comme piste pour la faire évoluer dans la scène, dans l'atelier, mais aussi potentiellement ailleurs. C'est prendre l'habitude de se dire, on peut, comme on est dans différentes institutions, là on en a parlé, de l'institution du travail, l'institution de la famille, l'institution du réseau amical, l'institution enfin toutes ces institutions, à chaque fois on a des rôles sociaux qui nous sont assignés, et au sein de ces rôles sociaux, enfin je sais pas, c'est salarié, c'est père, mère, c'est grands-parents, c'est frère, sœur, c'est voisin, je sais pas, on a tous ces rôles sociaux pour lesquels on attend des comportements de nous, où on pense nous-mêmes qu'on a des comportements qu'il faut tenir et d'autres qu'il faut pas tenir. Si on prend des libertés par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut créer? Qu'est-ce qu'on risque?
Voilà. Et est-ce que tu peux donner, par exemple, un exemple de CNET qui peut, par exemple, illustrer la manière dont on prend du recul déjà sur le rôle social assigné et dont on peut le détourner, voire l'envoyer chier?
Peut-être oui.
Voilà, pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal, la mise en forme, on va dire, est super parce qu'effectivement, on ne se connaît pas, on se voit et on commence à prendre confiance, finalement à créer quelques affinités. Ensuite, quand il nous est posé la question, choisissez un thème, chacun reparle un petit peu de sa vie. Et la dernière situation que nous avons vécue, c'est la relation à mon petit-fils qui n'est pas facile. Et bon, j'avais un schéma puisque j'avais un vécu. Donc ça, c'est ce qui a été pris et a été joué. Et l'intérêt, c'est que justement, ça a été joué par plusieurs personnes. Je n'ai pas forcément repris mon rôle de grand-mère, j'ai pris le rôle du petit-fils, ce qui était original et qui m'a beaucoup apporté. Et chacun à son tour a voulu voir. Il y a eu une grand-mère autoritaire, un grand-père très autoritaire, puis quelqu'un d'un peu plus. Et puis finalement, ça permet à chacun de se donner une idée de ce que on pourrait faire en mieux. Et pour ma part, j'ai déjà pensé à quelque chose de mieux. Voilà, ça c'est relativement bien fini dans ce que, par rapport au départ. Mais c'est ça en fait. Disons que le mot théâtre peut faire peur aux gens dans le forum théâtre, c'est parce que c'est un peu. Mais c'est pas vraiment du théâtre, c'est cette connivence qui va naître entre deux, trois personnes et cette situation qu'on va vivre chacun à notre tour pour apporter un peu plus de clémence, un peu plus peut-être de recul, un peu plus d'ordre. Voilà, j'ai bien aimé, franchement.
Ouais. C'est vrai que ça fait pas. Enfin, c'est vrai que le mot théâtre peut faire peur. Et en fait, c'est simplement une mise en situation. Et moi, la scénette que je vois, j'ai une idée. Et au lieu de discuter, je vais jouer. Enfin, jouer. Je vais dire comment j'aimerais que ça se passe. Et mon attitude et les mots que j'utilise, mais qui ne sont pas travaillés. Hein, c'est moi, j'ai une scène, il y a trois personnes. Moi, je ferais peut-être ça. Donc, on me dit, si tu veux faire ça, tu y vas. Donc je dis ce que je. Enfin, je vis physiquement en le jouant ce que je pense. Et ce qui va amener une réaction d'une autre personne, et voilà. Et c'est comme ça que, moi, je trouve, c'est vrai, la scène, je l'ai jouée avec Sabine, sur un ado et sa grand-mère, et les parents qui utilisent le temps libre de la grand-mère. Et ça a amené dans le groupe, en fait, à chacun à jouer d'abord un rôle différent, ce qui est intéressant, donc, comme disait Sabine, qu'elle a joué son petit-fils. Donc, ça lui a permis aussi, je pense, de prendre du recul. Et les autres personnes sont intervenues chacune à sa manière. Et autant que moi, j'ai peut-être joué la grand-mère autoritaire, parce que peut-être à la base, j'ai un peu de caractère, entre guillemets. Donc, ça m'a permis aussi de me dire, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait que tu sois dans cette situation-là. Et c'est ce côté que je trouve intéressant dans l'approche théâtre, enfin c'est des grands mots théâtre forum, où en fait, sans que ça soit, c'est pas du, on n'est pas sur le divan d'un psychiatre quoi, hein, faut rester quand même ludique, ok. Même s'il y a des sujets qui touchent, parce qu'en fait on part de scènes de notre vie, donc ça nous touche. Les rôles des animateurs sont là, je pense, pour éviter des débordements excessifs. Donc, pour l'heure, ils nous ont sûrement recadré, mais je ne me suis même pas rendu compte. Mais c'est là que je trouve que c'est important, parce que, sans faire du pléonasme, mais la vie est un jeu, quoi. Donc, voilà.
D'ailleurs, Arc-en-Ciel propose une séance de théâtre forum à Biden et Poutine la semaine prochaine. Donc ça permettra de... Non, ça je dis, c'est une blague.
Mais why not?
Oui, ça c'est clair. Ça lui ferait du bien, je pense.
J'étais en train de me dire, ah, je suis con.
Faut que je ramène l'agenda là.
Okay. Non, mais c'est pas grave, des fois on sort des blagues et ça tombe à l'eau, je suis habituée. Alors, très bien. Peut-être pour. Et là, vous êtes combien pour le moment aux Izards?
On est un groupe de 7 personnes, je crois.
Oui,
c'est
7,
ça.
Oui.
Voilà. Et nous, on est, le plus souvent Camille et moi qui intervenons. On est deux on pose. Alors vous vous rendez pas compte peut-être, mais on pose un cadre. Oui, mais c'est un cadre où, comme tu disais tout à l'heure, l'idée c'est de se dire quelles sont les conditions dans lesquelles on va pouvoir s'exprimer, à la fois pour pas être jugé quand on dit ce qu'on a vu. Quand on dit ce que ça nous fait, et puis aussi quand on essaie, parce que des fois quand on vient faire un remplacement sur la scène, alors déjà nous, moi je l'imagine en tout cas comme un anti-yak à faucon, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un dans l'assistance qui va me dire non mais de toute façon là, évidemment si elle avait fait comme ça, bien sûr ça serait mieux passé, si la grand-mère elle avait fait ça et ça, bien sûr, viens essayer, on va bien voir ce que ça donne. Donc déjà c'est un effet où déjà on a, voilà, c'est une confrontation à comment ça se passe quand on est dans la situation. Et puis c'est aussi que des fois on peut essayer des choses qui sont pas forcément ce qu'on aurait fait. La grand-mère elle était plutôt autoritaire, je vais essayer de faire une grand-mère qui pose telle question, qui va être plus à l'écoute. Je sais pas si c'est ce que j'aurais fait, mais en tout cas ça s'est pas passé comme ça. Je regarde par curiosité, parce qu'on est dans une recherche collective, je regarde comment ça peut se passer autrement, et on voit bien ce que ça donne. Ça permet à la fois nous d'essayer de voir comment nous personnellement on peut faire autrement, et ça sert la recherche collective en se disant ça nous a aussi posé telle et telle question.
Ouais, et puis après je trouve ce qui est intéressant pour revenir un peu au début de la discussion, c'est que on voit que il y a des questions que vous vous posez qui sont on va dire qui vont se poser à vous sous l'angle du tabou ou un peu de la culpabilité, ou en tout cas des choses où ça prend du temps de défricher, ça prend du temps de comprendre ce qu'on ressent, quelles sont les injonctions auxquelles on a été soumis, auxquelles on est soumis, et que c'est chouette de pouvoir peut-être déconstruire ce tabou-là dans des groupes de confiance. Du coup, rejoignez cet atelier.
Oui, je pense que c'est un peu le but. Et puis, ça nous apprend aussi à écouter, parce que lorsque nous avons joué, nous sommes face aux personnes qui donnent leur avis et nous avons envie d'intervenir. Et puis, la consigne, c'est non. Il n'y a que eux qui donnent leur avis. Et du coup, on reçoit cette information qu'on aurait pu être. Donc après, ils changent de rôle, mais on est à l'écoute. Et dans la vraie vie, finalement, on peut être amené à dire à quelqu'un, tiens, dis-moi comment tu aurais fait, avec un peu plus de temps.
Est-ce que vous voulez revenir sur les rendez-vous, les moyens de vous contacter, les prochains rendez-vous, du coup, MJC Roguet,
ouais.
César.
Oui, oui. Alors, du coup, les prochains rendez-vous, c'est le 16 mars à 10h au Centre Social des Izards, donc qui se trouve 1 place Micoulot. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail. L'adresse mail, c'est pcastello.castelo arc-en-ciel-théâtre, en un seul mot et sans accent, @mailo.com. Et donc le prochain atelier à la MJC Roguet, c'est le 17 mars à 10h. Voilà, et c'est 9 rue de Gascogne. Donc il y en a un aux Izards sur la ligne B du métro et un à MJC Roguet sur la ligne A du métro.
D'accord. Est-ce que, avant de se quitter, il y a quelque chose dont vous avez envie de parler, peut-être de revenir sur, je sais pas, des séances qui ont été marquantes pour vous, sur des envies de discussion que vous voulez avoir aussi, sur différentes choses?
Moi, je suis assez impatiente de voir la semaine prochaine, parce que vous avez lancé comme poutade un rendez-vous du Théâtre Forum entre Biden et Poutine, mais je suis sûre que la semaine prochaine, ces événements que nous vivons de loin et qui sont assez catastrophiques, j'imagine que incidemment, ils vont apparaître. Et donc, à notre petit niveau, en fait, je pense que ce sera intéressant de voir comment on le joue.
Mm-mm.
Voilà. Okay. On le vit en plus. On le vit et on le joue.
Ouais. Parce que du coup, il y a des... Justement, vous abordez, vous parlez un peu politique dans cette...
En fait, quand on va décider de jouer une scénette, enfin, ils appellent ça maquette, mais bon, en fait, on est en petit groupe et on dit qu'est-ce qui nous a, dans le mois qu'on a vécu, quelle est la situation qui nous a mis mal à l'aise ou sur laquelle on aimerait évoluer. Donc là, malheureusement, depuis 15 jours, on vit quand même des choses de notre niveau, quoi.
On fait toujours un petit peu de politique.
Voilà, donc ce sera la politique étant la vie de la cité. On y est dedans, quoi.
Tu vois, moi, je pense, par exemple, on a eu récemment, là, alors ça, c'était à la MJC Roguet, une situation où c'était comment faire pour garder une unité familiale quand il y a des divergences politiques entre, par exemple, c'était un père et un beau-fils, et voilà, ils étaient très, très écartés politiquement, et du coup, on est en repas et ça explose systématiquement. Donc, comment on fait pour que papy, qui est pas très tolérant, et voilà, il puisse, le temps d'un repas, partager des choses avec sa fille et son gendre, par exemple, ou par exemple, il y a eu aussi, parce que parmi les gens qui ont pris la retraite récemment, il y a des gens qui ont pris la retraite pendant les confinements, par exemple, et où tout le cérémonial, les rituels qui existent au passage de la retraite n'ont pas existé. Il y a des passages à la retraite qui ont été plus rapides que prévu, qui ont été, ben, comme tu le disais, Françoise, et donc avec des choses qui fait que le contexte global influe sur ce qu'on vit. Donc on est jamais de toute manière éloigné. Enfin, je considère un petit peu qu'il y a de toute manière de la politique partout, mais de toute manière, on n'est jamais complètement écarté, si on veut débattre de quelque chose ensemble, de qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui se passe dans le groupe, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur aussi.
Ce qui serait bien, c'est peut-être qu'on se revoit en juin, parce que là, on fera un bilan, puisque là, on est un peu, il y a 3-4 séances, on se cherche, justement, est-ce que c'est de la politique, pas, etc. Peut-être, qui sait, je sais pas, y penser.
Ouais. Les invités qui proposent le prochain magazine, moi, je dis OK, hein, direct. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, et puis bah peut-être en juin alors.
Alors tout à l'heure je donnais les rendez-vous, juste sur le site internet du Centre social des Isards et de la MJC Roguet, vous pouvez voir un petit peu une présentation, c'est très bien ce qu'on a fait là pendant une heure, mais si vous voulez, si les gens veulent l'avoir devant les yeux, donc sur le site internet du Centre social des Isards et de la MJC Roguet, vous aurez les présentations.
Avec plaisir, comme on dit à Toulouse.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Canal Sud 92.2. Et avant d'accueillir le groupe Peldrut qui joue justement ce soir à la Maison Blanche dans le quartier d'Arnaud Bernard, je voulais vous parler d'un rassemblement débat qui est prévu samedi 12 mars à 15h sur la place à Bâle, métro Rennerie. Alors rappelez-vous, on les avait reçus au début de l'année, en novembre, je crois, ou en décembre. C'est donc un collectif d'habitants de la Rennerie qui lutte contre la démolition de leur quartier. Je vais donc vous lire la lettre qu'ils nous ont envoyée. Donc, nous nous retrouvons pour demander un moratoire sur les démolitions d'immeubles prévues par la mairie de Toulouse, la métropole, le conseil départemental et le conseil régional. Démolition qui concerne les quartiers de Rennerie et Bellefontaine. Cela fait plusieurs mois que nous bataillons là-dessus pour que les choix et la vie des habitants du quartier soient respectés. Nous ne sommes pas de la poussière que l'on peut déplacer au gré des projets immobiliers et des décisions prises par les décideurs politiques sur qui aurait le droit d'habiter à tel endroit, à tel ou tel endroit. Nous disons aussi que ces démolitions représentent un gâchis humain, social, financier, architectural et écologique. À l'heure où dans les ministères, dans les instances européennes, et dans de multiples commissions d'experts, les orientations et les directives ont changé sur le tout démolition pour aller vers des préservations, rénovations de l'existant. Il est temps que M. Moudenc prenne en compte ces changements et adapte ses projets de rénovation urbaine. C'est pour cela que nous demandons un moratoire sur les démolitions, le maintien des locataires dans leurs appartements et le lancement d'un appel à concours d'architecture et d'urbanisme pour une rénovation de qualité associant les habitants. Proposition soutenue nationalement par un collectif d'architectes. C'est un courrier qu'on a reçu aujourd'hui qui appelle donc à un rassemblement débat à 15h, place à Bâle, métro Rennerie, donc samedi 12 mars, là le samedi qui vient. Et c'est notamment soutenu par, c'est appelé par l'Assemblée d'habitants de la Rennerie, soutenu par le collectif d'architectes contre la démolition et pour la rénovation, le collectif d'habitants de Bellefontaine, la Confédération nationale du logement, le droit au logement 31 et Toulouse Ouverture et Théo7, l'association Rennerie Miroir, le journal des habitants, comité local de résistance et de reconquête des acquis, Sud Éducation et j'en passe. Voilà, donc du coup, si vous avez envie de discuter d'en savoir plus, ou même si vous êtes habitant, habitante de la Rennerie Bellefontaine, le rendez-vous est donc donné samedi 12 mars, 15h, place à Bâle.
Steady, keep me working good. like you said you would. Ooh, 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 I'm ready. Okay, Babylon, you are falling down. Children will not save you. Something we can do. Oh, remember now I said it. This next whole verse is unrehearsed. Hope you get it. If it's love's sweet melody that you need from me, oh woman, now you got it. Some people's only goal is to drain your soul. Sugar spotted.